Radio de la Paix, il est 7 heures. Le journal de 7 heures, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Présidentielle 2025, une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour contribuer à une élection apaisée en octobre prochain. La délégation était hier à la CEI pour s'imprégner du processus en cours. 50 000 jeunes ivoiriens visés par le programme stage d'immersion du ministère de la Promotion de la Jeunesse. Pour la troisième édition lancée lundi, les bénéficiaires ont jusqu'au 29 juillet prochain pour s'inscrire. Information donnée par le ministre Mamadou Touré que vous entendrez dans ce journal. Hors de nos frontières, l'ancien président gabonais Ali Bongo, entendu à Paris, dans le cadre de sa plainte contre Libreville. La revue des titres de la presse vous sera présentée par Francis Cassis. Et puis, professeur Bamba Abdoulaye sera en fin d'édition l'invité de la rédaction. L'historien reviendra sur l'accord de paix signé récemment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Sur le sujet, il sera interrogé par Mardoché Kouassi. Démarrons ce journal avec cette information. L'opération de collecte des parrainages des candidats pour la présidentielle 2025 a débuté hier mardi 1er juillet. Elle prendra fin le 26 août prochain. Selon le code électoral, chaque candidat doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local, et ce, dans au moins 50% des régions et dans les districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Précisons que la CEI met à la disposition de chaque candidat son kit numérique. Avec l'organe en charge des élections Côte d'Ivoire, nous restons. Son président Ibrahim Koulibaly Kouibière a reçu hier mardi une délégation de la CEDEAO en mission d'observation préélectorale dans le pays. Cette rencontre a permis de passer en revue les préparatifs du scrutin présidentiel. C'est ce qu'apprend ici le chef de délégation, professeur Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, il est prévu qu'à la veille d'une élection, la commission de la CEDEAO envoie une mission préélectorale pour la collecte d'informations, des besoins éventuels, en vue d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Nous allons faire des recommandations après avoir rencontré d'autres organes à la commission, qui pourra décider de ce qu'il convient de faire, s'il pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer dans la préparation par les voies prévues. Ceci sera porté à la connaissance des organes en charge du processus électoral. S'il y a même des expériences heureuses de la Côte d'Ivoire qui peuvent être partagées avec d'autres, ce sera encore l'occasion de renforcer les capacités en matière de gestion des élections pour que nos élections soient des occasions de convivialité, de joie, de paix, que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. On est citoyen d'un même pays. S'il y a des contentieux, il y a des institutions ou des juridictions qui sont à même de les régler sans qu'on ne recoure à la violence. Voilà l'objet de notre rencontre. Je ne pourrais pas vous dire les résultats qui en sont sortis, puisque nous ne sommes pas encore concertés entre nous pour faire le debriefing. Même si ces résultats sont appréciés à notre propre niveau, c'est les décideurs qui verront ce qui est utile de retenir. Nous ne sommes que des experts à la matière.
Professeur Théodore Olo, chef de la délégation de la CEDEAO en mission d'observation préélectorale en Côte d'Ivoire. Et puis, renforcer la coopération entre les parlements ivoiriens et congolais et, au-delà, entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. C'est l'objectif d'un mémorandum d'entente signé par le président de l'hémicycle Adama Bictogo et son homologue congolais Isidore Nvouba le lundi 30 juin à Abidjan. Isidore Nvouba, après la signature du document.
L'essentiel, c'est de faire de sorte que nos deux institutions travaillent mano à mano sur tout ce qui est les grands défis des temps présents, au travers des échanges d'expérience, au travers des voyages, on peut dire, conjointes des délégations. Bref, être des auxiliaires actifs de nos deux exécutifs, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement de la République du Congo ou le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes là sur les sillages de deux présidents qui sont des amis, qui sont des personnalités compétentes, de tête de pont, le président Denis Sassou Nguesso, le président Alassane Ouattara. Et sur leur sillage, nous voulons servir comme il se doit les peuples congolais et ivoiriens. Bon, j'ai eu à dire ce matin dans mon discours que le ciel qui est celui du Congo et celui de la Côte d'Ivoire est un ciel bleu, sans nuages. C'est pour dire entre les deux pays liés par l'histoire, il a des relations de très très bonne qualité, des relations de solidarité, d'amitié partagée. Et nous, en réalité, on n'a pas, on peut dire, trop de choses à faire, sinon accompagner, n'est-ce pas, les deux présidents, les deux peuples qui s'aiment, nos travaux et des plus.
Isidore Mvouba, président de l'Assemblée nationale congolaise. Soulignons que le mémorandum d'entente entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville a été signé dans la dynamique de la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, session au cours de laquelle le président de l'institution a prononcé un discours axé sur la présidentielle et le bilan des travaux parlementaires. Cette intervention d'Adama Bictogo n'a pas laissé les députés indifférents. Retrouvons justement quelques réactions de députés, notamment celle d'Afin Guessant du FPI, de Tcheide Jean-Gervais du PPACI et de Nyanga Diomankone du RHDP.
Cette année, étant donné la présence du président de l'Assemblée nationale du Congo, par son message aux Ivoiriens, qui a insisté suffisamment sur la question du dialogue politique, qui a exhorté la classe politique ivoirienne à faire en sorte que la paix soit préservée, c'est un message que nous devons retenir et je suis persuadé que nous ferons en sorte afin que cette paix-là ne soit pas troublée et que les élections à venir se passent de façon inclusive, transparente et de façon démocratique.
Je retiens surtout que le président de l'Assemblée nationale a mentionné la question cruciale qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. À l'approche de l'élection présidentielle, il y a malheureusement encore des inquiétudes parce que les leaders des partis politiques importants comme le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, le président du PDCI-RDA, Tidiane Thiam, ne figurent toujours pas sur la liste électorale et il a appelé notre institution à travailler à la cohésion. Mais j'aurais été plus heureux si notre institution faisait un pas supplémentaire pour que nous puissions éteindre ce qui apparaît à l'horizon comme un foyer de tension.
Tout au long de cette première session, nous avons travaillé globalement sur 23 textes de loi. Plusieurs domaines comme la santé, l'environnement. Les députés ont reçu le ministre de la Construction pour plancher sur une question orale. La question de la propriété foncière, l'activité enrichissante. Et pour l'ensemble, les députés ont abordé un ensemble de problématiques qui ont un impact réel sur le quotidien de l'ensemble des Ivoiriens.
Successivement, vous avez écouté Afin Guessant du FPI, Tcheide Jean-Gervais du PPACI et Nyanga Diomankone du RHDP, tous dans des propos recueillis par Junior Cardin. Le programme de stage d'immersion, également appelé Job de vacances, lancé officiellement le lundi 30 juin par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Des milliers d'élèves et étudiants sur l'ensemble du territoire national, visés cette année par le gouvernement, ceci en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Là-dessus, écoutons Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.
Et l'ambition cette année, c'est de recruter 50 000 jeunes. Les stages d'immersion, job de vacances, ça vise aussi à permettre à ces jeunes-là de s'occuper sainement pendant les périodes de vacances. Et sur l'ensemble du territoire national, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. D'ailleurs, c'est pour cela que le programme permet donc de s'inscrire auprès des sous-préfectures, préfectures, sous-préfectures. Pour que même les jeunes qui sont en vacances en milieu rural, puissent aussi bénéficier de ce programme. Ce sont les établissements publics, les sociétés d'État qui se mobilisent, qui vont offrir aussi des opportunités donc à ces jeunes. Les stages vont démarrer le 1er août pour la première cohorte et le 1er septembre pour la première cohorte. Donc, ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, les inscriptions seront ouvertes et donc les jeunes ont à peu près un mois pour s'inscrire. Tout cela rentre dans une stratégie gouvernementale qui est le programme jeune du gouvernement. Si nous réussissons avec les 50 000 jeunes cette année, l'idée c'est qu'à partir de l'année prochaine, on passe à 100 000. Mais à terme, Nous voulons faire en sorte que tous les enfants après la troisième puissent faire un stage d'immersion ou job de vacances.
Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Également dans le fil de l'actualité, pour mieux informer les commerçantes transfrontalières à petite échelle sur les règles encadrant leurs activités, la troisième édition de la caravane d'information et de sensibilisation qui leur est destinée a été lancée le lundi 30 juin à Abidjan à l'initiative du centre de la CEDEAO pour le développement du genre. Cette caravane se déroulera le long du corridor Abidjan-Lagos du 30 juin au 15 juillet prochain. Il s'agit désormais de rendre les textes accessibles, d'alléger les procédures et d'accompagner les commerçantes, comme le rapporte ici Mata Touré.
Il faut dire que la libre circulation des marchandises prévue par les accords régionaux reste pour l'instant un idéal à atteindre sur le terrain. Et pour ces femmes, le commerce transfrontalier est source de bien des abus. Massangé Touré Litsé, commissaire de la CEDEAO en charge des affaires économiques et de l'agriculture.
On vous a parlé de harcèlement sexuel, d'extorsion de fonds et même des fois bloqués aux frontières pour des raisons qui n'en sont pas valables. Par exemple, femmes commerçantes qui se retrouvaient bloqués à certaines frontières en leur demandant de payer des droits de douane. Les produits issus de l'agriculture et qui ne sont pas transformés ne sont pas imposables. Ce genre de caravane permettra de parler aux femmes et de les informer sur l'existence de textes qui sont là pour faciliter leur existence.
Lady Marietta Donatienne intervenait au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire.
Je voudrais m'adresser particulièrement à ces femmes. Vous êtes le poumon de nos marchés frontaliers, enrichissant nos communautés et soutenant d'innombrables familles. Vous incarnez la résilience, la détermination et l'esprit entrepreneurial qui anime notre continent.
Faut-il le rappeler, ces femmes constituent 70% des acteurs informels sur le corridor Abidjan-Lagos et à ce titre, elles sont un maillon essentiel dans l'approvisionnement des marchés en denrées de grande consommation. Elles contribuent à hauteur de 4% du produit intérieur brut des pays et pèsent pour pas moins de 14% des dirigeants des entreprises manufacturières.
Hors de nos frontières, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia, leur fils Noureddine, ont été entendus par la justice française. Ceci dans le cadre de leur plainte pour séquestration, détention arbitraire, acte de torture et de barbarie, déposé en mai 2024 contre les autorités de Libreville. Tous trois ont été entendus, ont été reçus lundi 30 juin et mardi 1er juillet par deux juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris. De leur côté, les autorités gabonaises rejettent les accusations de torture des plaignants et assurent qu'un procès se tiendra au Gabon, même en l'absence des mises en cause, apprend l'AFP. Il est temps pour nous de retrouver Francis Cassi pour la revue des titres des journaux ivoiriens. Bonjour Francis.
Bonjour Sonia, bonjour à tous. Parrainage citoyen, voici les quotas par région. Lance le patriote à sa une. Pareil pour le jour plus écrivant. Présidentiel 2025, voici le nombre de parrains à obtenir par région et district. Mais cette étape obligatoire du processus électoral contrarie l'opposition à en croire le sursaut. Présidentiel 2025, le piège du parrainage se referme sur l'opposition. Toutefois, à l'inverse, le nouveau réveil a cette manchette concernant l'opposition. Collecte des parrainages pour la présidentielle 2025, Thiam, Gbagbo, Soro, Blé, c'est OK. Toujours au sujet de cette présidentielle d'octobre prochain, vos journaux se font aussi l'écho des échanges hier entre une mission de la CEDEAO à Abidjan et la CEI. Et là-dessus, notre fraternité matin. Présidentielle 2025, la CEI rassure une mission de la CEDEAO. Ce qui fait écrire le rassemblement ceci. La CEDEAO et la CEI dans la même direction. Avant que, terminant sur ce sujet, l'interne indique. Environ 2 heures d'échange hier entre la CEDEAO et la CEI. À présent, le regard à propos de cette élection de vos tabloïdes sur l'opposition et le parti au pouvoir. Pour l'expression présidentielle 2025, front commun contre le RHDP, ce qui complique la tâche de l'opposition. Et l'avenir de renchérir. Opposition ivoirienne, Simone et Yves, Thiam, plus rien ne va. ainsi que le matin, soulignant. Face aux partisans du terme ou rien, Madi Dikayué le ras-le-bol. En revanche, le bélier a cette manchette. Quatrième mandat, le RHDP enquête désespérée d'un leader légitime. Il est renforcé par le temps qui indique. Présidentiel du 25 octobre, quatrième mandat, un coup d'État constitutionnel. Et apportant de l'eau à leur moulin, la nouvelle alliance note. Présidentiel 2025, Ouattara visé par une requête devant le Conseil constitutionnel pour une présumée double nationalité. Enfin, terminons notre revue des titres de vos quotidiens de ce 2 juillet avec le temps qui, par rapport aux activités de la Chambre des rois et chefs traditionnels en lien avec le scrutin présidentiel d'octobre 2025, annonce. Tournée pour une présidentielle apaisée, les vérités de Pulchéri Balé au roi. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à vous Francis Cassis. Prochain rendez-vous dans l'édition de 8h. L'invité de la rédaction de ce jour est professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Professeur Bamba Abdoulaye revient sur l'accord de paix signé récemment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il parle également des enjeux de cet accord pour les différents acteurs concernés, mais aussi pour la diplomatie africaine. Sur le sujet, professeur Bamba Abdoulaye répond aux questions de Mardoché Kouassi.
Professeur Bamba Abdoulaye, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le 27 juin dernier, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin à une trentaine d'années de conflits dans l'est de la RDC. Alors, que vous inspire un tel accord?
Merci beaucoup. Je dirais que qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire quand il s'agit de paix. Plusieurs tentatives de rencontres et de signatures d'accords entre les deux parties ont échoué. Celle qui vient d'avoir lieu aux États-Unis marque un arrêt, un tournant que j'espère décisif dans le retour de la paix en RDC, dans un premier temps. Et ensuite également dans le retour de l'entente entre la RDC et le Rwanda. Vous vous souvenez déjà que le 15 décembre 2024, une tentative avait eu lieu, le président congolais ne s'est pas rendu. Et donc les deux ministres des Affaires étrangères sont retrouvés aux États-Unis. L'accord a été signé. C'est un signe d'espoir. Maintenant, il faudra que sur le terrain, cela soit matérialisé de part et d'autre.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, après plusieurs tentatives infructueuses, notamment du côté de la diplomatie africaine, les États-Unis réussissent une telle prouesse, on pourrait le dire. Est-ce le signe d'une inefficacité de la diplomatie africaine face à ce conflit?
Oui, il ne faut pas avoir peur de mots. Il faut aussi rappeler que l'initiative américaine est entreprise à la demande de la RDC. Et donc, ce qui montre déjà, dans un premier temps, le nouvel état d'esprit de la RDC. Les États-Unis, avec tout ce qu'ils représentent comme première puissance économique, première puissance militaire, ont des moyens de coercition sur les belligérants, des moyens de pression économique, diplomatique sur les belligérants, notamment sur le Rwanda. Et donc, à ce niveau, les États-Unis ont su donc appuyer un peu sur le bouton, contrairement à l'Union africaine qui était diverse, qui n'a pratiquement aucun moyen de coercition sur le Rwanda.
Alors, les États-Unis, jusque-là très discrets, on va dire relativement discrets dans cette zone du continent, sont en passe d'être les faiseurs de paix dans cette région. Alors, que vous inspire cette médiation, le fait que les États-Unis aient accepté aussi promptement d'intervenir ou d'être le médiateur? Est-ce que cela ne cache pas quelque chose?
Rassurez-vous, c'est pas de la philanthropie. Donald Trump est un homme d'affaires. Vous vous souvenez qu'à sa prise de pouvoir, il a toujours clamé « American first », c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Il mettra les pieds là où les intérêts américains sont. Et donc, les informations qu'on a, c'est que cet accord a été conditionné par des intérêts qui avaient été garantis aux États-Unis, notamment certaines richesses de la RDC, le lithium, le cobalt, l'or. Et donc, sur cette base-là, les Américains se sont dit qu'ils ont beaucoup à gagner au niveau du sous-sol congolais. Et donc, c'est tout ça qui milite en faveur de leur implication au plus haut niveau dans la résolution de ce conflit. Mais je rappelle que parallèlement à ce qui s'est passé aux États-Unis, à Doha également, il y a aussi eu des rencontres, c'est vrai, qui n'ont pas encore produit de résultats probants comme aux États-Unis, entre le gouvernement congolais et la rébellion. Mais il faut aussi que là-bas, il y ait une entente pour que sur le terrain, même si on sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23, il y ait vraiment une accalmie et un retour définitif à la paix.
Alors, professeur, un accord déjà signé aux États-Unis, des négociations en cours au Qatar. Mais pourquoi finalement ces négociations au Qatar, puisqu'il y a déjà un accord de paix?
L'accord de paix aux États-Unis, c'est entre le gouvernement, l'État rwandais et l'État de la RDC. Les négociations à Doha, c'est entre l'État de la RDC et la rébellion du M23. Et le M23 qui est sur le terrain, qui combat, qui aujourd'hui a le contrôle, c'est une grande ville dans Goma. Et on sait que le M23 a toujours été soutenu par le Rwanda. Donc le Rwanda, en signant cet accord, s'engage à respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Mais il faut que sur le terrain maintenant, la rébellion dépose les armes et s'engage inexorablement dans un processus de paix pour le pays. Donc voilà un peu la clarification au niveau des deux processus. Mais les deux processus ne sont pas contradictoires parce qu'ils convergent vers le retour de la paix et la stabilité en RDC.
Alors, professeur, pensez-vous que cet accord est le bon et qu'il va vraiment permettre de mettre définitivement fin à cette crise?
Je ne le pense pas, je l'espère, parce que la population à l'est du Congo souffre énormément. Il y a plusieurs décennies qu'il y a des va-et-vient, des accords de paix qui ne sont pas respectés, des retours des hostilités. On ne peut plus faire le point et dénommer le nombre de morts, tous les dégâts matériels qu'il y a eu. Cette partie du Congo et la RDC de France générale a besoin de paix, a besoin de stabilité, a besoin d'accalmie. Donc, au-delà de penser, j'espère que les différentes parties vont jouer sans jeu et vont respecter donc les clauses de ces accords. Et surtout qu'il faut maintenant chercher à trouver un accord avec le MDC. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait vraiment penser à un retour définitif de la paix en RDC.
Professeur Bamba Abdoulaye, merci beaucoup.
Merci à vous et à très bientôt.
Bamba Abdoulaye, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët Boigny de Cocody, était reçu par Mardoché Kouassi dans le cadre de l'invité de la rédaction. C'est ce qui met fin à ce journal, dont voici le rappel des titres. Présidentielle 2025, une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour s'imprégner du processus en cours. La délégation était hier à la CEI. Et puis, hors de nos frontières, l'ancien président gabonais Ali Bongo, entendu à Paris dans le cadre de sa plainte contre Libreville. Merci de votre fidélité. À 8h, encore un journal sur Radio de la Paix.